Le titre de mon message aujourd'hui, le choix divin, ou le choix d'être ou de ne pas être. On va tourner dans Jean chapitre 8, le verset 23 et 24. Moi, j'ai la version Chouraki. C'est une version que j'aime beaucoup. C'est un juif qui a traduit la Bible et il l'a traduit d'une façon très particulière. Je vais le lire dans ma version. Jean 8, versets 23 et 24. Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de cet univers, de ce monde. Moi, je ne suis pas de cet univers. » Je vous ai donc dit, vous mourrez dans vos fautes. Oui, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos fautes. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos fautes. Le même titre, le même nom que Dieu s'est donné à Moïse. Tu diras aux enfants d'Israël que je suis. Jésus a employé le même mot. Je suis. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos fautes. Le je suis qui est venu à nous, qui est descendu, qui s'est révélé à nous, le je suis divin, qui se manifeste pour nous, quand ce « je suis » se manifeste, moi, je ne peux plus être. Si le « je suis » arrive dans la place, il est Dieu, il prend toute la place. Et si le « je suis » vient dans la place, moi, je ne peux pas être, je ne peux pas être le « je suis », il est le « je suis ». Il doit prendre toute la place. Mais la vie chrétienne, c'est un choix. Nous savons que nous avons toujours des choix à faire dans toute situation qu'il arrive. Nous sommes constamment confrontés à des choix. Depuis notre jeunesse jusqu'à notre vieillesse, nous sommes confrontés à des multiples choix. Est-ce qu'on va rester célibataire ou est-ce qu'on va se marier? On regarde, on pèse tous les avantages. On sait que lorsqu'on choisit une chose, on délaisse. On est obligé de renoncer. On ne peut pas choisir. Souvent, il y a deux choses qui se présentent devant nous. On ne peut pas les choisir toutes les deux. Il faut en délaisser une pour en prendre l'autre. Si on choisit d'être célibataire, on va regarder certains avantages. Mais on dit non, on renonce à d'autres avantages que d'être marié. Si on choisit d'être marié, on renonce aux avantages du célibat, de la liberté qu'il y a dans le célibat, pour prendre les avantages du mariage et de la famille et tout ce qui s'ensuit. C'est la même chose pour le jeune couple qui se décide un jour d'avoir des enfants. Bien, il doit renoncer à la liberté d'être jeune couple, d'avoir une liberté de voyager et de décider d'avoir des enfants. On a des amis de Montréal, justement, qui ont décidé à l'âge de 35, 40 ans d'avoir des enfants. Ils avaient toujours vécu beaucoup de voyages et grande liberté comme jeune couple, mais lorsqu'ils ont décidé d'avoir des enfants à l'âge de 40 ans, 35, 40 ans, c'était le temps ou jamais. Alors ils ont dit, bon, on se décide, on va avoir des enfants. Ils ont eu deux enfants, mais depuis ce jour, on ne les voit plus, ils ne voyagent plus. Les enfants les préoccupent tellement qu'ils sont obligés d'en prendre soin, ce sont des jeunes enfants. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. Ils savaient que, suite à un choix, ils avaient des conséquences. Et notre vie entière est faite de choix comme cela. Et chaque choix que l'on prend est plein de conséquences après. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis devant les enfants d'Israël un choix. Choisis le bien et tu auras la vie. Choisis le bien. Choisis de m'obéir et tu auras la vie. Et on voit ce que les enfants d'Israël ont fait de ce choix. Dieu les a livrés à leur propre choix. Okay? Dans Ésaïe 65, le verset 10 à 12, On voit comment les enfants d'Israël ont réussi, si on peut dire ainsi, réussi à choisir selon leurs propres capacités, selon ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ésaïe 65, versets 10 à 12. Le Saron servira de pâture au menu bétail, et la vallée d'Akar servira de gîte au gros bétail, pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma sainte montagne, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Meni, je vous destine aux glaives et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. En Ésaïe 66, les versets 2 à 4, on voit la même situation se répéter. Le prophète Ésaïe avertit encore les enfants d'Israël. Versets 2 à 4. « Toutes ces choses, ma main les a faites, et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leurs âmes trouvent du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. » Encore le choix. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Mais toute la vie du peuple d'Israël, c'est constamment cela. Ils sont confrontés à un choix, et ils choisissent ce qui déplaît à Dieu, à la longue. Dieu permet un libérateur, Dieu permet l'ennemi de s'en aller loin de ses portes, Dieu délivre les enfants d'Israël, et ça ne prend pas beaucoup de temps pour qu'ils reviennent à leur choix personnel, qu'ils reviennent à leur idolâtrie. C'est constant. Le cœur du peuple d'Israël, Moïse va dire que leur cœur reste toujours incirconcis. Leur cœur, dira le prophète Jérémie, le cœur de l'homme est méchant et tortueux dès l'enfance. C'est que si Dieu nous livre à un choix, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui l'empêche de choisir le bien. Il est incapable de choisir le bien, parce que le cœur de l'homme est corrompu. Le cœur de l'homme est corrompu, l'apôtre Pierre va dire, par la convoitise qu'il y a dans le monde. Il est corrompu, il est comme souillé, sali, pourri de l'intérieur. Il n'y a rien de bon dans l'homme, dira David. Rien de bon. Le cœur de l'homme est méchant dès son enfance. Dieu avait confronté le peuple d'Israël à ce choix, et l'homme, en général, n'a pas été à la hauteur de ce choix. C'est pour cela, face à cette situation qui était sans solution, Dieu avait une réponse. Dieu avait une solution, et c'était un sauveur. C'était un sauveur qui allait venir sortir l'homme de cette corruption, de cette pourriture mortelle. C'était comme le péché, c'est comme un cancer mortel qui avait atteint le cœur de l'homme, inguérissable par des moyens naturels. Seul un sauveur pouvait venir et libérer l'homme de ce cancer intérieur, de cette maladie à l'intérieur. C'est pour ça qu'avec le Nouveau Testament, Dieu a changé la donne. Dieu ne nous met plus devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il sait que, comme Ève, comme Adam, nous aussi, on va choisir encore le mal. À la longue, on va choisir le mal, parce qu'à l'intérieur de nous, on est corrompu. Le péché nous a corrompus. On est sali par la nature du diable. La nature de l'homme est pécheresse. Il est incapable de faire le bien. Nous avons besoin d'un sauveur. Et dans cette nouvelle alliance que Dieu fait, il a envoyé un sauveur, mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont recevoir ce sauveur-là? Qu'est-ce qui va faire que les gens, que mon peuple va pouvoir être au bénéfice de ce salut? Dieu a changé la donne. Au lieu d'être un choix du bien et du mal, il nous a mis devant un choix différent. Ce n'est plus une question de « fais ceci, fais cela ». Ce n'est plus ça. C'est une question de foi. Crois au Sauveur. Le verset qu'on a lu tantôt, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Si vous ne croyez pas. La donne est complètement changée. Ce n'est plus le choix de faire le bien ou le mal, parce qu'on est incapable de le faire, ce bon choix-là. Dieu nous met devant le choix de croire en un sauveur ou le choix de ne pas croire en un sauveur. C'est comme si Dieu s'est abaissé, il voyait notre condition déplorable, il s'est abaissé à rendre les choses d'une simplicité enfantine. Tu as juste à l'accepter. Tu as juste à recevoir. À croire dans la grâce de Dieu qu'elle a apporté ce sauveur, ce Jésus. Tu as juste à croire et tu vas recevoir. C'est pour cela que la foi devient le centre. Et la foi, ce n'est plus essayer de faire le bien ou essayer de faire le mal. La foi, c'est une adhérence. C'est, tu crois au Sauveur. Tu fais confiance à la solution que Dieu a donnée à l'homme. Mais pour faire confiance à cette solution-là, il faut que tu reconnaisses ton propre état. Pour goûter à la grâce de Dieu, il faut que tu reconnaisses l'état de ton propre cœur. Il faut que tu t'humilies, parce que la grâce de Dieu est accordée seulement aux hommes, la Bible nous dit. Il faut que tu reconnaisses l'état de ton cœur. Et pour goûter pleinement la grâce de Dieu, il faut que tu goûtes pleinement aussi la corruption qui est dans ton cœur. Il faut que tu goûtes, il faut que tu ailles reconnaître le fond de ton cœur. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Et même en tant que chrétien, après avoir accepté le Seigneur, après avoir marché avec lui, nous ne sommes pas reçus devant Dieu parce que là, maintenant, nous sommes capables de faire le bien. Nous ne sommes pas acceptés devant Dieu parce que nous sommes maintenant de bonnes personnes et que nous faisons le bien. L'apôtre Paul va dire toujours, « Je me présenterai devant Dieu avec la justice qui est non la mienne, mais avec celle qui vient de Dieu par la foi. » C'est toujours une question de la grâce de Dieu que l'on reçoit. Et si je me présente aujourd'hui devant Dieu, même si ça fait 30 ans, 40 ans que je suis le Seigneur et que je fais des bonnes œuvres, ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres que je suis justifié. C'est à cause de la foi en Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, cela nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quand Jésus est parti, il a dit qu'il allait nous laisser un consolateur pour nous conduire dans toute la vérité. Ce consolateur est toujours avec nous. À partir du moment qu'on accepte le Seigneur, sa présence, il est une personne, sa présence est là, c'est l'Esprit de vérité, il est toujours là. Il ne peut pas être plus là, parce qu'il est là, il est. C'est la troisième personne de la Trinité, il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, il est là pleinement ou il n'est pas là. Quand l'apôtre Paul dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit », pour être rempli de l'Esprit, c'est pas qu'il y a plus de l'Esprit. Le problème n'est pas du côté de l'Esprit. L'Esprit est là, il est prêt à donner tout ce qu'il a en réserve pour nous. Le problème est en dedans de nous. C'est de faire de la place au Saint-Esprit. Il y a trop de toi encore à l'intérieur de toi et il n'y a pas encore assez de place au Saint-Esprit. C'est une question d'espace. C'est une question de libérer de l'espace à l'intérieur de nous. Le problème d'être rempli de l'Esprit, c'est pas d'avoir plus de l'Esprit, c'est d'avoir moins. D'avoir moins de moi et plus de place, de faire de l'espace à l'intérieur de mon cœur pour recevoir l'Esprit de Dieu pleinement. Pour qu'il puisse agir pleinement. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 et 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De savoir, de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est plus la connaissance du bien ou du mal, mais c'est la connaissance d'une personne. La foi, c'est de s'attacher à une personne, c'est de faire confiance au Sauveur. Ça change complètement l'optique. Parce que l'homme a été créé relationnel. L'homme est capable de faire confiance depuis sa jeunesse, depuis son enfance, il fait confiance à ses parents. Il a une capacité de faire confiance à quelqu'un d'autre. Beaucoup plus que la capacité de faire le bien. Et c'est cela qui est dans la Nouvelle Alliance. De connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il y a aussi deux choses. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi il y a ces deux choses-là? L'apôtre Paul dit, si vous connaissez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, vous avez tout. C'est tout rien, plus besoin de rien d'autre. Mais pourquoi Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Il faut toujours expliquer le Nouveau Testament par l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait montré à Moïse un chemin, le tabernacle, la tente de la rencontre. Dieu dit, tu vas faire toutes choses selon le plan que je vais te donner, tu vas faire les choses comme cela. Puis il appelait ça une tente de la rencontre. C'était un ombre des choses à venir, c'était la rencontre avec Christ. C'était un lieu de rencontre. Parce qu'il savait que la loi n'allait que convaincre de péché le perdu, mais ce n'était pas une solution en soi. La loi n'est pas une solution. La loi est bonne pour convaincre de péché, pour démontrer à l'homme qu'il est pécheur, pour qu'il reconnaisse son état de pécheur. Oui, c'est bon la loi pour cela. Mais à part cela, ça ne donne aucune solution. Tu es encore poigné avec ton péché. Et c'est pour cela que Dieu avait donné à Moïse une image, un symbole. Il dit, tu vas faire une tente de la rencontre. Et dans cette tente, il y avait 8 éléments. Okay? Il y avait 8 éléments. Mais il y a une chose remarquable, il y avait 2 autels. Puis chacun de ces autels, un autel, dès le début, avec Abraham, on voit Abraham bâtir des autels devant l'Éternel, offrir des sacrifices, des holocaustes. C'est comme s'il y avait dans l'homme un besoin de rencontrer Dieu, comme s'il sentait son incapacité, et l'autel, c'est un moyen de se donner, de s'élever et de recevoir la grâce de Dieu. C'était ombragé, c'était pas clair. Mais c'était là, toujours un autel pour invoquer l'Éternel. Et dans la tente de la rencontre, dans ce que Dieu a dit à Moïse de bâtir, il y avait deux autels. Et à chacune de ces autels, il y avait quatre cornes. Une corne, dans l'Ancien Testament, c'est toujours un signe de puissance. Une corne de puissance. On parle des royaumes de Perse, on appelle ça une corne. C'est une puissance mondiale. On parlerait des États-Unis aujourd'hui, on dirait que c'est une corne. C'est une puissance mondiale. De cet autel sortaient quatre cornes, quatre puissances de vie. Il y avait le premier autel, qui était là où on offrait des sacrifices, où que l'on tuait l'agneau innocent. L'agneau innocent qui symbolise bien sûr Jésus-Christ. Mais c'était en image. C'était que quelqu'un d'innocent devait mourir pour nos péchés. Déjà, l'image était là. Le sang devait être versé à cause de nos péchés. Sans ça, il n'y aurait aucun pardon. Aucun chemin de retour vers Dieu. De cet autel sortaient quatre cornes. Les quatre cornes, on les voit juste le verset avant, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Ça nous parle, l'apôtre Paul nous dit, c'est quoi ces quatre cornes qui sortent de l'autel de la croix de Jésus-Christ. Verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Les quatre puissances de vie qui sortent de la croix de Christ, Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ est notre justice. On ne peut s'approcher devant Dieu avec notre propre justice. Nous avons besoin de recevoir la grâce de Dieu. Dans le premier autel, Jésus-Christ crucifié, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et on peut seulement le recevoir. On ne peut pas l'acquérir, on ne peut pas le mériter, on ne peut pas faire de bonnes œuvres puis assez faire de jeûne et de prière pour le recevoir. Non, c'est gratuit. C'est juste donner à la foi, celui qui a confiance. C'est une grâce que Dieu donne aux hommes. Que Dieu donne aux hommes. Ça veut dire que cet autel que l'on reçoit gratuitement, il y a quand même quelque chose de notre part que Dieu donne aux hommes. Il y a comme un dépouillement, puis on le voit, parce qu'à partir de cet autel que Dieu a fait construire à Moïse, il y avait trois autres étapes, trois autres choses dans le tabernacle, qui symbolisaient ces quatre cornes-là aussi. Christ, notre justice, c'est l'autel comme tel. Christ, notre sanctification, c'est la cuve des reins. Il y avait une cuve où les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds. Ça, c'est la cuve des reins. Et ça symbolise Christ, notre sanctification. Pourquoi? Parce que cette cuve des reins symbolise l'eau qu'il y avait dans la cuve par laquelle les sacrificateurs se lavaient. Ça symbolise la parole de Dieu. Hein, ça symbolise cette parole qui vient nous laver, qui vient laver nos pensées, notre âme. Parce qu'en Jésus-Christ, à l'autel, il faut bien se rendre compte que à l'autel, quand on le reçoit Jésus-Christ, il y a un miracle qui se passe. Il y a une circoncision qui se fait. Dans Colossiens chapitre 2, verset 11, ça dit « Vous avez été circoncis, vous avez été, pas vous serez, vous avez été, quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On a été circoncis. Il y a quelque chose en dedans de nous qui a été enlevé. Nous avons notre cœur de pierre, la Bible dit dans Ézéchiel. Le cœur indocile a été enlevé. Nous avons reçu un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et nous sommes nés de nouveau. Nés de l'esprit parce que nous recevons, quand nous acceptons Jésus, un nouvel esprit, un nouveau souffle qui nous anime. C'est complètement nouveau. L'ancien, il est crucifié à la croix. L'ancien, il meurt à la croix avec Jésus-Christ. Le jour qu'on accepte Jésus, qu'on le reçoit dans notre vie, notre ancien esprit corrompu est mis à la croix, il meurt là. Mais dans l'homme, il y a trois parties, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et l'âme, elle, elle reste là, elle reste vivante, elle reste entière. C'est pour ça qu'on a besoin de la cuve. La cuve, c'est pour laver notre âme. Notre âme, c'est nos pensées, notre volonté, nos désirs naturels. C'est ça qui a besoin d'être lavé par la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de vos pensées. Changez vos pensées. Ne restez pas avec les vieilles pensées que vous aviez avant. Vous avez besoin d'aller dans la parole de Dieu pour laver, hein, purifier vos pensées. Parce que si notre esprit est nouveau, notre âme, elle, elle a encore besoin d'être lavée à tous les jours. Parce que ce chemin, Dieu avait dit à Moïse, tu vas bâtir un autel, une cuve, etc. Puis là, il avait dit, les sacrificateurs, à tous les jours, ils vont aller à l'autel, premièrement. Ils vont offrir à tous les jours un agneau, le matin et le soir, hein, l'agneau perpétuel. Ça symbolise la foi. À chaque jour, il faut renouveler notre foi en Jésus-Christ, que c'est par la foi qu'on peut s'approcher de lui. C'est jamais par nos bonnes œuvres. Peu importe ce qu'on a fait, qu'on ait fait le bien ou le mal, je peux m'approcher de Jésus au travers du sang. Ça ne dépend rien de mes bonnes œuvres. C'est par la foi. Il faut d'abord que le sacrificateur aille à l'autel. Ensuite, il devait passer par la cuve des reins, se laver les mains et les pieds, parce que les venait d'offrir un agneau, c'était sali. Avec le sang, c'était sali. Les mains avec le sang, alors il devait se laver. Ça symbolisait la parole de Dieu, qu'on devait se laver à tous les jours. Mais ça, c'est une grâce. Hein, c'est la grâce de la sanctification. C'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, nous donne sa parole pour nous sanctifier. Le Saint-Esprit est celui qui nous sanctifie au travers de la parole. Le Saint-Esprit est celui qui va nous éclairer la parole. La parole va devenir une lumière qui va enlever la corruption qui est dans notre âme. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose de complètement nouveau dans notre esprit. Mais notre esprit est tout petit encore. Il est bébé. Il a besoin de grandir. Comme Jésus grandissait en grâce et en sagesse, notre esprit qui est bébé a besoin de grandir. Mais notre âme, elle, elle garde le souvenir des péchés, elle garde le souvenir des choses qui étaient avant. Et cette âme-là a besoin d'être lavée, transformée, renouvelée constamment. Puis c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail-là, par pure grâce. Je ne me sanctifie pas à force de mes efforts. Non, c'est une grâce. Je reçois du Saint-Esprit la parole qui me libère, la vérité qui m'affranchit. Je la reçois du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième corne. Christ, notre sanctification. La troisième corne qui sort de l'autel, c'est le troisième élément qu'il y avait dans le temple. Une fois qu'il avait passé par l'autel des sacrifices, par la cuve des reins, ils entraient dans le lieu saint, la première partie du temple, et là, il y avait le chandelier avec les sept branches, tout éclairé, tout illuminé, qui éclairait la place. Ça parle de Christ, notre sagesse. Le Saint-Esprit, le chandelier, c'est le Saint-Esprit qui éclaire, qui nous donne sa sagesse. Mais on voit dans tout cela, il faut faire attention, de remarquer qu'il y a toujours un choix. Je choisis de me laver. Je choisis de me dépouiller mes vieilles pensées, d'enlever mes vieilles pensées pour être renouvelé par le Saint-Esprit. Il faut se laver, il faut renoncer. Il faut renoncer aux vieilles pensées. Et là, Christ, notre sagesse, c'est la même chose. Il faut renoncer à notre sagesse humaine. Parce que on est habitué de diriger toute notre vie avec notre sagesse. Si on n'avait pas de sagesse, on ne pourrait pas diriger notre vie. Mais là, en Jésus, on est appelé à abandonner notre sagesse. Hein, dans Proverbe chapitre 3, ça dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est comme, il faut abandonner notre vieille sagesse, notre vieille façon de se diriger. On s'appuie là-dessus. Puis tu dis, non, je veux être ta sagesse, moi. C'est le Seigneur lui-même qui veut être notre sagesse. Mais pour qu'il soit pleinement notre sagesse, il faut il faut enlever la vieille sagesse puis lui laisser de la place. C'est ça que je disais au début. Pour être rempli de Saint-Esprit, il faut lui laisser de la place. Il faut que tu enlèves ton âme qui est dans le chemin. Parce qu'à la cuve des reins, ce qui est changé, c'est au niveau de ton intelligence. Et au niveau de la sagesse, ensuite, c'est ça, c'est tes pensées, ton intelligence, tes sentiments, tes désirs, ça doit être changé par le Saint-Esprit. Tu dois abandonner un abandon continuel au pied de la croix. Abandonner continuellement ta vie, à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, tu es confronté à des choix. À tous les jours, tu as à débuter ta journée en faisant comme le sacrificateur, en passant par l'autel, en passant par la cuve, en allant au chandelier, aux sept branches, pour être illuminé par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui, à tous les jours, le sacrificateur, matin et soir, il devait faire cela. C'est le signe de la puissance de vie qui sort de Christ crucifié, le premier autel. La grâce de Dieu abonde là. C'est complètement une grâce de Dieu. C'est le cadeau que Dieu nous a fait. Mais ce cadeau va venir plein et entier le jour où l'on va s'abandonner entièrement, où l'on va s'humilier entièrement. Parce que si il manque d'humilité, il manque de grâce aussi. Si quelqu'un se pense assez bon de faire le bien, il n'a pas besoin de la grâce de Dieu, comme dira l'apôtre Paul. Si quelqu'un pense être quelque chose, ben il s'illusionne lui-même, parce qu'il n'est rien. On n'est rien devant Dieu, on ne peut pas se présenter devant Dieu. L'apôtre Paul était un homme humilié, il savait ce qu'il était en dedans de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur lui-même. Il n'avait rien de bon. Il avait appris qu'il fallait qu'il marche dans l'humilité. Puis il avait tellement appris que le Seigneur lui donnait même des épreuves pour le garder humble. Il avait même envoyé un ange de Satan pour le souffleter, pour qu'il reste humble. Parce que c'était la condition primordiale pour que la grâce de Dieu abonde. Mais c'est le premier autel. Moins de moi, plus de lui. On n'a pas besoin d'inviter le Saint-Esprit. On est habitué des fois. Inviter le Saint-Esprit va venir. Il est déjà là, le Saint-Esprit. C'est Jésus à enlever un peu plus de moi, à m'enlever du chemin, à passer par le renoncement, la repentance, parce qu'il y a des repentances là-dedans aussi. Si je reconnais, à partir du moment que je reconnais, c'est encore ma sagesse qui est dans le chemin. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a constamment une marge de repentance parce que souvent, on va se rendre compte que c'est encore ma sagesse, mes pensées, mes désirs. Ma volonté. Mais le Seigneur est patient, il est gracieux. Il veut nous apprendre, il nous fortifie comme ça. Il nous fait grandir en grâce et en sagesse devant lui et devant les hommes. La quatrième corne, c'est Christ, notre rédemption. Le quatrième élément dans le temple, c'était la table et les pains de proposition. La place où l'on est nourri. Les pains, c'est l'élément qui nous nourrit. Et cela n'était pas fait tous les jours. C'était une fois par semaine que le pain de proposition était mangé. Ça parle du corps de Christ. C'est l'élément corporel de Christ. C'est déjà une image. Dans l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu disait, vous avez besoin d'au moins de vous rencontrer une fois par semaine. C'était déjà là, parce que le sacrificateur, une fois par semaine, il mangeait les pains, puis il en mettait de nouveau. Parce que les pains restaient là une semaine de temps. Et après une semaine, il les mangeait. Il en remettait des nouveaux. Mais c'est une image. C'est l'élément corporel de Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Parce que Dieu va parler différemment par l'un et par l'autre et par l'autre. Et nous avons besoin du corps de Christ pour nous fortifier. Ça va être la force que Dieu va nous donner. Si quelqu'un est seul et qu'il tombe et qu'il n'a personne pour se relever, comme dit les proverbes, malheur à lui. Mais s'il a un second pour le relever, il va avoir la force de se relever parce qu'il y a quelqu'un à côté. Ça, c'est l'élément que Dieu a pourvu, Christ, notre rédemption. Christ, celui qui nous rachète de ce monde, qui nous éloigne du monde et qui nous donne une famille à l'intérieur, une famille, la famille des enfants de Dieu. Son corps, la force des autres membres de son corps. Ça, c'est la quatrième corne. C'est entièrement une grâce de Dieu. C'est l'élément de la grâce de Dieu qui coule, qui abonde en nous. Mais toujours là, il y a toujours un choix. Pour renoncer à nous-mêmes, pour renoncer à notre sagesse, notre intelligence, notre volonté. Parce que là, quand tu fonctionnes dans un corps, tu ne fonctionnes plus seul. Fonctionner dans une équipe, travailler en équipe, c'est pas comme travailler seul. Travailler seul, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu travailles en équipe, il faut que tu te soumettes à d'autres personnes. Il faut que tu acceptes les conseils, la volonté de d'autres personnes. Il faut juste que ce soit ta volonté. Il faut que ce soit aussi la volonté des autres. Alors là, il y a constamment un renoncement à sa propre volonté pour marcher dans une équipe, dans un corps, dans une communauté, dans un ecclésia, dans une assemblée de croyants. Là, j'ai juste parlé du premier autel. Ensuite, on arrivait à un deuxième autel, qui était l'autel où il n'y avait pas de saint offert. C'était l'autel des parfums. L'autel des parfums nous parle de Jésus-Christ, du sacrificateur. L'autel des sacrifices nous parle de Jésus-Christ comme sacrifice. C'est notre sacrifice. C'est celui qui s'est donné pour nous. Et parce qu'il s'est donné, il a payé le prix. Il a payé le prix de tous nos péchés et des conséquences de nos péchés, de nos maladies, de toute la malédiction qui était tombée sur nous. Jésus-Christ a porté ça à la croix. C'est le premier autel. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il a acquis notre rédemption, un salut complet du début à la fin. Mais dans le deuxième autel, il fait plus encore. C'est comme s'il dit, ça ne suffit pas que je vous ai lavé, que je vous ai sanctifié, que je vous ai assagi, ça ne suffit pas. Je veux être avec vous. Le deuxième autel, c'est le parfum. Le parfum de Christ, la présence de Christ continuellement avec nous. Jésus-Christ, le sacrificateur qui nous montre le chemin. Parce que le but de tout ça, cette marche dans la tente de la rencontre, le but de tout ça, c'est la rencontre avec Dieu. C'est de devenir semblable à Christ. C'est le but qui est tracé devant nous. Et nous avons besoin, à quelque part, d'apprendre à suivre le sacrificateur qui est Jésus-Christ, à devenir comme lui. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 25, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le deuxième autel, c'est Christ, notre sacrificateur, qui nous montre le chemin, qui nous dit, viens, suis-moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il y a toujours le renoncement. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce que le sacrificateur, il est venu s'offrir pour nous. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Puis Jésus n'arrêtait pas de dire aux disciples, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, mais qu'il se fasse le serviteur de tous. Comment dit, si tu veux être grand, suis mes traces. Fais comme moi, deviens le serviteur. Et le sacrificateur, l'autel des parfums, c'est là pour nous montrer le chemin du sacrificateur. C'est Christ lui-même qui marche devant nous. Il nous prend par la main et dit, viens sur moi. Je vais te montrer mon chemin. Quand tu es injurié, ne rends point d'injure. Quand tu es maltraité, ne fais point de menace. Quand on te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. C'est Christ, notre sacrificateur, qui nous entraîne, parce que c'est pas un chemin qu'on est habitué, c'est pas un chemin que l'on aime, c'est pas un chemin qui est agréable, et c'est pas le chemin que l'on souhaite. Mais c'est le chemin que Jésus a suivi. Alors il nous prend par la main, il nous emmène. Parce que c'est au-delà de nos pensées. On ne réagit pas comme ça naturellement. Quand quelqu'un te donne une injure, tu lui rends une injure. Mais lui, il dit, il ne faut pas que tu rendes une injure. si on veut te prendre un vêtement, mais tu lui laisses aussi ta tunique. C'est... On a besoin de lui. Parce qu'il faut qu'il marche avec nous. Il faut qu'il nous montre le chemin, qu'il nous prenne par la main, puis qu'il nous conduise, parce que c'est pas naturel. C'est surnaturel. C'est son chemin à lui. C'est le deuxième autel. C'est la présence de Christ qui vient. Jésus-Christ qui vient le loin, qui vient dans la place et qui nous entraîne sur le chemin, qui est souffrant, parce que c'est la croix, il y a une croix à porter. Mais c'est pas l'eau parce qu'il la porte avec nous. C'est jamais l'eau parce qu'il est là. Mieux vaut être dans sa présence avec un petit peu de souffrance à porter que sans sa présence. Oh, sans sa présence, c'est lourd, c'est pesant. Mais c'est ça que Dieu met, encore là, Dieu nous met devant le choix. Il met l'Église en entier devant le choix. Le problème, souvent, c'est que ce choix n'est tellement pas naturel, c'est un choix qui est divin, qu'il est difficile à l'Église de suivre. Elle reçoit facilement le premier étel, la grâce, mais une partie de la grâce, souvent juste une partie de la grâce. Mais la deuxième partie, elle n'aime pas. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7. Il parle à l'église des Corinthiens. Là, il leur parle de la grâce. Hein? Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ah, moi, je te ministère. Oh! Moi! C'est pure grâce. Tout est grâce. Là, il dit au verset 8, « Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. » Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. L'Église veut être roi, veut être des rois. On a un royal sur notre vie. Nous sommes des sacrificateurs royaux. Mais le problème, c'est que l'Église doit être roi avant d'être sacrificateur. C'est le problème. C'est un gros problème. C'est pour ça que le désert est là. Pour conduire l'Église à suivre son sacrificateur avant d'hériter la royauté. Parce que Dieu a en vue la royauté pour nous. L'apôtre Paul va dire, « Oh, pauvre Église de Corinthiens. » Il n'est pas en train de leur donner des fleurs, là. Il est en train de leur envoyer un pot. Il est en train de leur dire, « Vous avez commencé à régner. Oh, vous ne connaissez pas votre état. Oh, vous êtes riche, vous êtes rassasiés. Vous dites, je n'ai besoin de rien. Mais vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, aveugle et nu. » C'est ce que l'apôtre Jean va ajouter pour l'église de la Laodicée dans l'Apocalypse. Vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, aveugle et nu, parce que vous n'avez pas suivi le sacrificateur. Puis là, si on continue à lire, on va voir ce que l'apôtre Paul dit au verset 9. Car Dieu, il me semble, il se moque. Il se moque des Corinthiens. Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Il se moque. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul n'était pas fou. L'apôtre Paul savait, jusqu'à maintenant. Parce que l'autre côté, c'est moi qui vais régner. Puis l'apôtre Paul, il va en régner sur... une énormité de personnes. Il va être un roi très très élevé après Jésus. Mais il savait que jusqu'à maintenant, bon, il suivait le sacrificateur. Et le sacrificateur, le chemin qu'il avait tracé devant l'apôtre Paul, c'était le service, c'était l'humilité, c'était servir sans raison. Oublie-toi toi-même. Sers, marche dans l'humilité. Supporte. Oublie, pardonne. C'était le service. Puis là, il dit bien au verset 16. Je vous en conjure donc. Il dit, je vous en conjure. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. C'est pas rien donné aux apôtres de suivre ce chemin-là. Non, tout chrétien doit suivre son sacrificateur, son grand berger, le pasteur des brebis. Soyez mes imitateurs. Vous aussi, chrétiens de Corinthe, vous devez m'imiter. Si vous voulez parvenir à la royauté, vous n'avez pas le choix. Il faut vous marcher dans le chemin que Christ a marché. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a rien qu'un chemin. Et c'est le chemin que Jésus a marché. Soyez mes imitateurs. Vous voulez parvenir à la royauté, mais marchez sur mon chemin. Parce que la royauté que vous avez maintenant, c'est une fausse royauté. La richesse que vous avez maintenant, c'est une fausse richesse. Ce n'est pas la richesse qui vient d'en haut. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il se moquait des Corinthiens, il dit, mais vous voulez la royauté, mais vous ne voulez pas du sacrificateur humain, du chemin du sacrificateur. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui, avec tout le mouvement prophétique. C'est juste une recherche de la royauté. Comment être roi? Comment le kingdom now? Comment devenir roi? Comment obtenir la gloire de Dieu? Oui, nous allons obtenir la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de s'attacher. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit de faire maintenant. Il nous dit de suivre le chemin du service, du serviteur. Pas le chemin de la royauté. C'est pas tout de suite. Ça va venir, mais c'est pas tout de suite. C'est très important de comprendre cela. Parce que c'est le problème de l'Église aujourd'hui, l'Église de Laodicée. Nous sommes l'Église de Laodicée. L'Église se dit riche, elle n'a besoin de rien, mais elle ne sait pas qu'elle est malheureuse, misérable, aveugle. Puis le Seigneur dit, achète de moi, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, un collier pour moins tes yeux, pour que tu vois, et un vêtement blanc. Achète de moi, mais c'est gratuit, mais viens, suis-moi. C'est ça, le choix que l'Église a à faire. C'est un choix qui est devant nous. Parce que le Saint-Esprit est comme une colombe. Le Saint-Esprit ne forcera jamais la main à personne. Dans Timothée, ça nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Tite, chapitre 2, verset 12. La grâce de Dieu, le Saint-Esprit, nous enseigne. Il nous prend par la main et dit, viens, je vais t'emmener à renoncer. Mais c'est une colombe. Il est gentleman. Il ne forcera pas la main. Si la personne dit, le chrétien dit, ça ne m'intéresse pas. OK, je vais revenir plus tard. Le Saint-Esprit revient plus tard. Une année. La porte va fermer. Là, une année, Jésus va fermer la porte de la grâce au vierge folle. Il va dire, non, je ne le connais pas. La porte va être fermée au vierge folle. Parce qu'ils ont refusé les appels constants du Saint-Esprit qui était là. Viens, suis l'agneau. Suis l'agneau. Suis le souverain sacrificateur. Suis-moi sur le chemin du renoncement. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est devant toi. Il ne faut pas regarder à ce qu'on abandonne pour Christ. L'apôtre Paul dit, tout ce que j'ai abandonné pour que c'est de la boue. Ça ne m'intéresse pas de retourner. Je veux Christ. Je veux connaître Christ. Il y a une joie glorieuse à connaître. Puis même si, jusqu'à maintenant, je ne suis pas en train de régner, mais je vis, j'expérimente la puissance de Christ. Parce que l'apôtre Paul expérimentait la puissance de Christ dans sa vie. Il voyait le Seigneur agir. Il savait que Dieu était avec lui. C'est ça qu'on a besoin de revenir en tant qu'Église et aussi en tant que pasteur. Parce que c'est pas juste les chrétiens dans l'Église qui veulent être des rois. Le problème commence aussi avec les pasteurs qui veulent être des rois. Le pasteur doit être un serviteur. Il doit être le modèle du troupeau. Comme l'apôtre Pierre nous dit, cherchez pas à dominer le peuple. Il dit pas non pas ça, il dit pas ça. Il dominez pas le peuple. C'est pas votre job. Vous êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour servir de modèle. Être l'ancien. Il ne s'appelle même pas pasteur, un ancien. C'est-à-dire quelqu'un de plus vieux, comme un frère plus vieux, une sœur plus vieille, qui nous montre le chemin. On la regarde, on le regarde, puis on dit, wow, lui, il nous apprend à vivre en Jésus. Quelqu'un d'ancien est honoré automatiquement. Quelqu'un qui vit, qui suit le souverain sacrificateur, est honoré parce qu'il voit, il suit Christ, et les autres peuvent voir, oh, lui a de l'expérience en Jésus vraiment. Mais lorsque les pasteurs veulent être des rois et se donnent des titres et se donnent du prestige, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, quand le peuple a voulu un roi, Dieu dit, je vous ai donné un roi dans ma colère, je vous l'enlèverai dans ma fureur. Puis là, il leur dit, je vais vous redonner des juges. C'est-à-dire des gens qui vont être juste là comme des anciens pour être des modèles. Mais des rois, ce que le peuple voulait, ça tue le peuple. Parce que ça l'empêche de suivre, de connaître Christ, Jésus-Christ. On a un grand berger qui est Jésus lui-même. Personne ne peut prendre la place de notre berger. On a un seul berger, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit suivre, on doit s'attacher. Parce que le Saint-Esprit est là. Puis lui, il nous parle. Il est constamment là pour nous entraîner sur ce chemin-là. Dans ce choix qui est non pas notre choix à nous, qui est son choix à lui. Je vais finir avec un verset. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Il prend la peine de dire, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai choisi de ne plus être pour que lui soit. La grâce de Dieu qui a été accompli à la croix pour que je reçoive cette grâce entièrement et que par cette grâce je puisse suivre le chemin de la vérité, le chemin de l'esprit, suivre mon sacrificateur, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pas seulement la grâce, mais la grâce et la vérité. Il y a la grâce de ce qui a été accompli à la croix par Jésus-Christ crucifié et il y a la vérité de suivre un chemin tracé devant nous qui est le chemin du service, qui n'est pas le chemin encore de la gloire, de la royauté, qui est le chemin du service. Suivre ce chemin, qui est l'esprit de vérité, qui va nous enseigner toutes choses. Il va nous enseigner à renoncer. Il va nous enseigner à le suivre, à suivre notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ. Amen.